VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 21 juin 2016. Au sommaire ce soir...
Renforcement des mesures de sécurité en Turquie au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 41 morts à l'aéroport international d'Istanbul.
Burundi rafle à Bujumbura. Plus de 200 personnes arrêtées ce mercredi sur des passes publiques au nom de la lutte contre la mendicité.
Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, affirme que les mendiants doivent retourner sur leur colline d'origine pour s'adonner à l'agriculture ou à d'autres métiers.
L'Union européenne tient sa première réunion sans la Grande-Bretagne.
Présidentielle américaine, Clinton et Trump au coude à coude, selon un nouveau sondage national.
Le journal de l'Euro, Portugal, Pologne, une affiche à ne pas rater demain.
Mais d'abord, le journal.
Au Burundi, plus de 200 personnes ont été arrêtées ce mercredi sur les grandes places de la capitale. Les policiers étaient à la recherche de mendiants en nette augmentation à Bujumbura. Parmi eux, des femmes, des jeunes, mais aussi des enfants et des personnes âgées. Il y a deux semaines, le maire de la ville, Freddy Mbonima, a annoncé l'intention du gouvernement de chasser les chômeurs et de les renvoyer dans leur province d'origine. Correspondance de Christophe Foronziza.
Depuis 8h GMT, soit 10h heure de Bujumbura, des policiers et militaires étaient à la recherche de tout ce qui ressemble à des mendiants sur les grandes artères de Bujumbura. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et conduites dans un local de la mairie de Bujumbura pour être enregistrées. Parmi eux, des jeunes de la rue, de petits enfants que certaines mamans amènent dans la ville pour mendier à leur compte, des handicapés, des personnes âgées. Un des responsables d'une association qui représente les droits de l'enfant, Jacques Chimirimana, il serait judicieux que le bienfaiteur aide ses enfants en sachant où les trouver. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, affirme que ce travail de faire mendier des enfants mineurs doit impérativement cesser. Les mendiants doivent retourner sur leur colline d'origine pour s'adonner à l'agriculture ou à d'autres métiers. Ce jour, personne ne sait exactement le nombre de jeunes de la rue au Burundi, mais pour des organisations qui aident la jeunesse, ces jeunes se comptent par dizaines de milliers. Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, avait déclaré il y a deux semaines que ces jeunes qui pullulent les rues de la capitale sans emploi seront reconduits sur leur colline d'origine. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Lutte contre les djihadistes au Mali. Le Conseil de sécurité a augmenté d'environ 2500 hommes les effectifs de sa force sur place. La résolution préparée par la France et adoptée à l'unanimité aujourd'hui à New York dote la MINUSMA d'un mandat plus offensif pour protéger les civils et son personnel. Nous diffuserons après ce journal l'interview avec le premier ministre malien Modibo Keïta sur le renforcement de la MINUSMA.
Disparition d'un chanteur au Nigeria, Ado Dahiru Daukaka, n'a plus donné signe de vie depuis la sortie d'un morceau dénonçant la corruption des législateurs du nord-est du pays. Sa famille redoute un enlèvement à motif politique, indique l'agence France-Presse.
Procès Simone Gbagbo à Abidjan. Les avocats de l'ex-première dame ivoirienne ont réclamé la publication d'un rapport psychiatrique de Moïse Metchro Harold Metch. Cet ex-chef de milice a accusé Madame Gbagbo de financer son mouvement, le groupement des Patriotes pour la Paix.
En Angola, le tribunal suprême de Luanda a ordonné aujourd'hui la libération conditionnelle et l'assignation à résidence de 17 opposants. Eric Manirakiza.
La décision prend effet à compter de ce jour. Le rappeur Luati Beirao, qui détient la double nationalité portugaise et angolaise, est bénéficiaire de cette mesure. Francisco Miguel Michel, leur avocat, a salué le jugement, affirmant que ses clients n'avaient commis aucun crime. Pour lui, n'importe quel tribunal indépendant réagit de la même manière et ceux qui ont fait appel vont désormais attendre auprès de leur famille et leurs amis. Arrêté en juin 2015, les 17 opposants ont été condamnés en mars à des peines allant de 2 à 8 ans de prison pour tentative de rébellion. Ils appartiennent tous au mouvement révolutionnaire pour l'Angola qui réclame le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979.
L'ONU tire la sonnette d'alarme au Soudan du Sud. Près de 5 millions de personnes, soit plus d'un tiers de la population, font face à une insécurité alimentaire sans précédent.
Terrorisme en Algérie. Selon le quotidien gouvernemental, les services de sécurité ont déjoué une tentative d'attentat dans un centre commercial. L'attentat était préparé par un groupe armé dont 8 membres ont été tués le 31 mai.
Et en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi appelle les dignitaires religieux musulmans à corriger les discours sur l'islam pour aider à lutter contre les extrémistes. Au cours d'un discours, il a expliqué que des jeunes érudits musulmans ont attribué de façon erronée des dires et actes au prophète Mahomet. Pas assez d'efforts ont été déployés pour lutter contre l'idéologie des extrémistes, estime le président égyptien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Turquie, au moins 41 personnes, dont 13 ressortissants étrangers, ont trouvé la mort et 239 personnes ont été blessées dans l'attaque qui a frappé la première ville du pays, Clermont-Ferrand-Gibourg.
La Turquie pointe du doigt le groupe État islamique. Hier, des kamikazes ont ouvert le feu dans l'aéroport international d'Istanbul avant de se faire sauter, tuant au moins 41 personnes, dont 13 étrangers. Ces attaques coordonnées sont les plus meurtrières en Turquie, déjà visées 3 fois cette année par des attaques terroristes qui n'ont pas été revendiquées. Le président américain Barack Obama a offert à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, l'aide des États-Unis pour l'enquête. Depuis un an, des attentats à Istanbul et Ankara ont fait près de 200 morts et des milliers de blessés. Le tourisme, l'un des grands pourvoyeurs de devises du pays avec près de 30 milliards d'euros par an, commence à subir les effets pervers de ces attaques.
Et Bruxelles a accueilli un sommet pour la première fois sans les Britanniques. Les dirigeants européens ont averti le Royaume-Uni qu'il ne pourra pas négocier un accès à la carte au marché unique après sa sortie, rejetant toute velléité de Londres de restreindre la libre circulation des personnes. Nathalie Barge.
Les dirigeants ont dit que l'accès au marché unique nécessite d'accepter les libertés fondamentales de l'Union européenne, y compris la liberté de mouvement, a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk. Pour le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, son pays confronté aux séparatistes catalans s'oppose à ce que l'Écosse soit partie prenante de toute négociation post-Brexit. Si le Royaume-Uni part, l'Écosse partira des institutions de l'Union européenne, a-t-il argumenté. Pour sa part, le président français François Hollande s'est prononcé contre une remise en cause de l'accord du Touquet signé avec Londres qui vise à contenir l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni. Ceux qui aujourd'hui demandent sa suppression sont ceux-là même qui l'ont conclu, a relevé M. Hollande, rappelant qu'il devait retrouver le Premier ministre démissionnaire David Cameron vendredi lors des commémorations du centenaire de la bataille de la Somme.
Au Pakistan, des hommes armés non identifiés ont tué 4 membres des forces de sécurité à Quetta, dans le sud-ouest. 2 motocyclistes ont tendu une embuscade au passage d'un véhicule paramilitaire. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.
Les changements climatiques, une priorité dans les discussions ayant lieu à Ottawa aujourd'hui entre les leaders nord-américains. Barack Obama s'est rendu dans la capitale canadienne pour rencontrer son homologue Enrique Peña Nieto du Mexique et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il devait annoncer un partenariat à l'échelle continentale en vue de produire d'ici 2025 la moitié de l'électricité nécessaire dans la région en évitant de contribuer à l'effet de serre.
Course à la Maison-Blanche, un nouveau sondage national de l'université Quinnipiac révèle une lutte très serrée entre les 2 principaux candidats, de toute façon plus serrée qu'avant, Hillary Clinton et Donald Trump. La démocrate aurait 42% contre 40% dans les intentions de vote, 6% préfèrent un troisième candidat, 5% ont dit qu'ils n'auront pas voté du tout et 7% sont encore indécis.
Vous voulez visiter les États-Unis ? Eh bien, très bientôt, l'examen de vos dossiers pourra inclure une visite sur votre page Facebook et autres réseaux sociaux. C'est du moins le vœu de certains membres du Congrès, dont l'influent sénateur John McCain. Il soutient plusieurs projets de loi qui exigeraient du département de la sécurité intérieure l'analyse des profils et activités de tout demandeur de visa américain sur le net. Une branche de ce ministère, le service des douanes et de protection des frontières, a formulé une proposition qui demandera aux voyageurs étrangers de révéler les informations concernant leur compte Facebook et Twitter. À bon entendeur, salut. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
La Coupe d'Europe des Nations 2016, l'Euro 2016 avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, on attend maintenant les quarts de finale qui démarrent ce jeudi.
Oui, avec un certain Pologne-Portugal, les quarts de finale de l'Euro débutent ce jeudi par deux outsiders de la compétition qui ont l'occasion d'atteindre le dernier carré. Présentation de la rencontre avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzo.
Deux équipes au jeu un peu brouillon, deux stars qui peinent à imprimer leur patte sur cet euro. Voilà en quelque sorte le profil de ce quart de finale entre la Pologne et le Portugal. Les Polonais ont arraché leur place au tir au but contre la Suisse et c'est seulement à cette occasion que le capitaine et joueur numéro 1, Robert Lewandowski, a fait trembler les filets. Zéro but inscrit dans le jeu pour l'attaquant du Bayern Munich. La Pologne attend le réveil de son joueur phare, mais pourra s'appuyer sur le milieu de terrain Jakub Błażejkowski, qui s'est montré plus prolifique avec deux réalisations. Côté portugais, le constat est assez similaire. Sorti miraculeusement de la phase de groupe avec trois matchs nuls, le Portugal a atteint le top 8 au bout de la prolongation face à la Croatie. Quaresma a été l'homme providentiel et le sélectionneur Fernando Santos comptera une nouvelle fois sur lui pour suppléer Cristiano Ronaldo. Certes, la star du Real Madrid a inscrit deux buts dans la compétition, mais son jeu est beaucoup moins tranchant qu'en club. Le Portugal a quelques difficultés en attaque, donc, mais sa solidité défensive lui a pour l'instant permis d'éviter des déconvenues. Pologne-Portugal, c'est ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome de Marseille. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Bagassi, parlons de Cristiano Ronaldo.
Eh bien, il espère égaler le record de Michel Platini, 9 buts dans un euro. C'était en 1984. S'il marque contre la Pologne, on parle maintenant de Cristiano. S'il marque demain contre la Pologne, ce jeudi à Marseille, en face, les Polonais, eux, espèrent que leur vedette Robert Lewandowski va enfin se réveiller et marquer, parce qu'il n'a pas marqué depuis le début de cette compétition.
Autre match ?
Eh bien, vendredi, la Belgique joue contre le Pays de Galles. Samedi, Italie-Allemagne, le choc de ces quarts de finale. Et dimanche, bien sûr, au Stade de France, les Islandais espèrent encore nous apporter un peu plus de surprises.
Allez, les Bleus! Combien de buts ont été inscrits jusqu'à présent dans l'Euro 2016?
Eh bien, au total, depuis le début de cet Euro, ce sont 88 buts qui ont été inscrits en 44 matchs, hein, soit 2 par rencontre, très exactement. C'est toujours moins que la moyenne de buts inscrits lors du dernier tournoi européen en 2012. Elle s'élevait à l'époque à 2,5 buts par match.
Nous avons parlé de l'Islande qui doit affronter la France dimanche. Et le cas de cette équipe, l'équipe de l'Islande, surprend tout le monde, Bagassi.
Oui, scénario incroyable. Hein. Ce lundi à Nice, l'Islande avait réussi un superbe exploit en éliminant l'Angleterre, 2-1. En football, il y a Chérubin, ce qu'on appelle les petits poussés. Il y a les faux petits poussés. C'est le coup de sifflet de Gilles Valentin Gouet.
Bonjour. Il existe en football deux types de petits poussés. Il y a ceux qui le sont réellement, car ils sortent de nulle part et se retrouvent dans une compétition qui n'était manifestement pas faite pour eux. Ils viennent, prennent trois valises et puis s'en vont. Le Zaïre de 74 et le Salvador de 82 ont été les plus généreux en la matière. L'autre type de petits poussés concerne les faux petits poussés. Ceux-là qui viennent, sournoisement armés, mais sous-estimés par déficit de médiatisation. Le Cameroun de Roger Milla en 1990, imité 12 ans après par le Sénégal d'Eladji Diouf, fera faire les champions du monde sortants de Diego Maradona et de Zinedine Zidane et furent à deux doigts de réaliser le hold-up du siècle. Ce hold-up a été réalisé dans le cadre de l'Euro par la Grèce de Zagoratis en 2004, plus connu jusque-là pour ses déculottés. À l'image de la raclée prise face au Nigeria au Mondial 94, la Grèce a survolé l'Euro portugais, battant à deux reprises le pays organisateur, éliminant au passage le champion en titre français et le favori tchèque avant de soulever le trophée. L'Euro 2016 nous fait découvrir un nouveau petit poussé dangereux. L'Islande, invaincue jusque-là et qui a laissé sur le carreau l'Angleterre, en attendant de retrouver sur sa ligne de mire la France, au même stade de la compétition que la Grèce en 2004. Beaucoup disent que l'histoire ne se répète pas, mais certains relèvent qu'il lui arrive de bégayer. C'est à l'Islande de départager les uns et les autres dimanche soir. À demain.
À demain, Jules. Suivez toute l'actualité de l'Euro 2016 sur voaafrique.com.
Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Le Maroc se dote d'une super agence de production extérieure. L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations vient de voir le jour. Elle résulte de la fusion de trois anciennes structures publiques du ministère du Commerce et de l'Industrie. La nouvelle agence devrait avoir un budget d'au moins 23 millions d'euros. La nouvelle Société Générale de Banque au Cameroun a un nouveau directeur. Il s'agit du Camerounais Georges Ouéga, 46 ans. Le groupe bancaire français poursuit sa politique de promotion des cadres africains à la tête de ses filiales continentales. C'est en effet le deuxième subsaharien à être promu après l'ivoirien Simon Elé Yeo qui dirige la filiale ghanéenne. La lutte contre la pêche illégale et la construction de parcs nationaux en Afrique occidentale pourrait créer près de 300 000 emplois. C'est ce que souligne un rapport publié par Overseas Development Institute. Si les gouvernements régionaux en finissent avec la pêche illégale et construisent des industries de transformation du poisson et des flottes de pêche autochtones, ils pourraient générer près de 3 milliards de dollars, 8 fois les 400 millions qu'ils reçoivent actuellement en vendant les droits de pêche aux étrangers, indique ce rapport.
Morgane Guiriec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
41 morts, dont 13 étrangers et 239 blessés. C'est le tout dernier bilan officiel du triple attentat suicide qui a frappé mardi soir l'aéroport international Atatürk d'Istanbul en Turquie. C'est l'attaque la plus meurtrière dans la grande métropole turque, déjà frappée par 3 attentats cette année. Ankara attribue le carnage à Daesh, le groupe État islamique. John Lennon s'est entretenu avec Muriel Domenech, consul général de France à Istanbul.
On est sous le choc. Istanbul a connu le pire attentat qui a connu la ville jusqu'à présent. C'est le 4e attentat depuis le début de l'année. Et on est très choqués. C'est aussi le 8e attentat en Turquie depuis un an. Donc la Turquie est en deuil, la ville est en deuil. Nous-mêmes, nous avons mis nos drapeaux en berne.
Est-ce que les mesures de sécurité ont été renforcées aussi bien à Istanbul même que dans tout le pays? Vous en savez quelque chose?
Oui, c'est visible. Les mesures de sécurité ont été renforcées et l'aéroport a rouvert avec une sécurité renforcée.
Est-ce que vous avez une idée des auteurs de ces attaques?
Bon, écoutez, les autorités turques ont désigné Daesh. Et le mode opératoire semble effectivement concourir à cette thèse.
À votre avis, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Daesh attaquerait Istanbul?
C'est pas la première fois que Daesh attaque Istanbul, c'est déjà la troisième fois. Il y avait eu un attentat le 12 janvier à Sultanahmet, dans le quartier des mosquées. Le 19 mars, dans la grande rue d'Istanbul, Istiklal, Caddesi. Et aujourd'hui, c'est l'aéroport. Donc, vous voyez, c'est assez cohérent. Daesh attaque les étrangers et le tourisme à Istanbul.
Muriel Domenech, un dernier mot avant de nous quitter.
Écoutez, ce terrorisme de Daesh, c'est un terrorisme que nous combattons tous. Pays membres de l'OTAN, la France, les États-Unis, la Turquie, nous sommes solidaires dans la lutte contre le terrorisme. Nos deux pays, d'ailleurs, vous savez que moi je représente la France en Turquie, la France comme la Turquie ont été très très douloureusement visés par Daesh cette année. Vous savez que la Turquie subit également le terrorisme du PKK que nous condamnons. Donc c'est ce mot de solidarité sur lequel je voudrais insister entre nos différents pays au sein de l'Alliance Atlantique.
Muriel Domenech, consul général de France à Istanbul.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Quelles seront les conséquences possibles en Afrique du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Les accords commerciaux en seront-ils affectés? Y aura-t-il des changements à l'aide au développement? Le Brexit peut-il tout de même offrir des opportunités à l'Afrique?
Y a-t-il également une dimension politique qui pourrait affecter le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
L'ONG Human Rights Watch a publié mardi deux rapports détaillant l'appui de Paris et Washington à Hissène Habré, notamment dans sa prise du pouvoir et sa guerre contre l'invasion libyenne. L'ancien président tchadien a été condamné en mai à Dakar à la prison à perpétuité en rapport avec les exactions commises sous son régime. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le politologue Amat Mahamat Hassan.
La France n'a jamais lâché le destin des pays qu'elle avait colonisés avant, donc y compris le Tchad. Donc les mécanismes de dévolution du pouvoir font que la France est toujours impliquée. Les États-Unis de Reagan et de Bush père avaient une obsession, c'est celle de défaire le régime de Gaddafi par rapport à des questions de géopolitique internationale ou des intérêts. La question du terrorisme, vous savez très bien la question de Lockerbie et tout autre que nous savons comme casserole que prenait le président Gaddafi à l'époque. Donc cet antagonisme a favorisé un soutien énorme et accru à Hissène Habré. Donc la formation de sa service justement de sécurité, la DDS, où les officiers avaient connu une formation par les services secrets de la CIA, mais aussi par les Israéliens et surtout par l'armée française et les services de sécurité français. Nous savons très bien que ce soutien a contribué à la répression massive des Tchadiens, à la dictature, à l'autoritarisme et surtout au massacre des groupes ciblés, des groupes ethniques, que ce soit du sud ou du nord ou du centre. Et donc, en principe, de près ou de loin, il y a une responsabilité de ces deux puissances-là sur ce que les Tchadiens ont connu comme malheur ou sanguinaire.
Alors, quelle est aujourd'hui l'attitude de Paris et de Washington par rapport à la situation actuelle dans votre pays?
La situation actuelle dans notre pays, elle est une autre situation, mais en réalité, nous avons un lieutenant de Hissène Habré qui est au pouvoir, M. Idriss Déby. Il y a une chose, la constante de soutien de l'Occident et sur la dévolution du pouvoir et le destin des peuples africains reste le même. C'est les intérêts. Aujourd'hui, Idriss Déby et le Tchad sont devenus une sorte de barrière contre le terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors dans ce cas-là, la priorité sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, c'est des priorités mieux que la question de la démocratie et des droits de l'homme pour lesquels on ne les utilise que du bout des lèvres.
Le politologue Amat Mahamat Hassan joint N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Le Conseil de sécurité a renouvelé pour un an le mandat de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Environ 2500 hommes viendront renforcer les quelques 12 000 casques bleus déjà sur place. La résolution préparée par la France et adoptée à l'unanimité à New York dote la MINUSMA d'un mandat plus offensif pour protéger les civils et son personnel. Est-ce que les 2500 soldats aideront à rendre la mission onusienne plus efficace au Mali? Jacques Aristide a posé la question au Premier ministre malien Modibo Keïta lors de son passage récent devant le Conseil de sécurité à New York.
La solution n'est pas dans le nombre, pas dans la quantité, mais dans la qualité. Alors il ne s'agissait pas pour nous de demander à augmenter le nombre seulement, mais à faire en sorte que la mission soit mieux équipée et que son mandat puisse subir une transformation. Dans la situation actuelle, le mandat de la MINUSMA, c'est de contribuer à la stabilisation de la paix et à la protection des populations. Ça s'arrête là. Malheureusement, il y a une force qui a émergé, qui s'attaque sans cesse aux populations, aux civils, aux forces armées, que ce soit les forces armées maliennes, les forces armées de la MINUSMA, les forces Barkhane. Nous avons donc demandé que le mandat puisse subir une mutation pour permettre à la MINUSMA de participer à la lutte contre le terrorisme. En raison du caractère tout à fait complexe aujourd'hui du terrorisme, en raison des frontières extrêmement larges que le Mali a avec d'autres pays, nous avons souhaité qu'avant d'aller très loin, il faut que la région puisse disposer d'une force d'intervention. Cette force d'intervention devait permettre de parer à toute éventualité.
Mais venir faire un tel plaidoyer aux Nations Unies, est-ce un aveu d'impuissance du gouvernement malien face aux djihadistes?
Non, et la réalité, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est le résultat d'un constat et de l'accumulation d'une certaine expérience. Il est donc normal que le gouvernement du Mali, soucieux de l'avenir, puisse demander, vous avez souhaité nous aider, mais voilà la façon la meilleure que nous trouvons pour que vous puissiez nous aider. Ce n'est pas du aveu d'impuissance, c'est au contraire. Et l'affirmation de notre volonté d'aller de l'avant, mais dans les meilleures conditions, dans toute souveraineté du Mali.
Modibo Keïta, Premier ministre du Mali, durant son passage récent à New York.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Barack Obama est arrivé à Ottawa, au Canada, pour une visite d'une journée. En compagnie du Premier ministre Justin Trudeau, une rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto va s'articuler sur l'accord de libre-échange que le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, veut remettre en cause. Les trois pays veulent mettre en avant leur volonté d'avancer ensemble sur le climat et le Brexit. Eric Manirakis a adjoint à Ottawa Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Vous savez, le président Obama est très apprécié au Canada. Et en plus, vous savez, il a donné beaucoup d'honneur au premier ministre du Canada quand il était aux États-Unis. Et il lui a montré vraiment une affection particulière. Ça veut dire que les gens du Canada ont très bien pris ça. D'autant plus que le premier ministre Trudeau reste encore très populaire quand même quelques 7 mois après son élection.
C'est une visite qui se fait dans des circonstances particulières. Après le Brexit, est-ce qu'on peut dire que l'accord de libre-échange est menacé? Il y a le candidat républicain qui veut remettre en cause cet accord.
Effectivement, tout le monde le sait que si l'actuel candidat républicain, si M. Trump passait, ça serait tout un problème. Et c'est probablement pour ça que les deux ont des comptes à régler avec lui, que ce soit le président Obama, que ce soit le président du Mexique qui ne veut rien entendre parler de lui, puisque vous savez qu'il veut aussi ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc tout le monde pense que c'est quelque chose qui va réunir le président Obama et le président du Mexique. D'autant plus aussi que ça arrive au Canada au moment où le gouvernement Trudeau vient de lever le visa, puisque l'ancien gouvernement du Canada avait instauré un visa d'entrée pour les Mexicains au Canada. Vous voyez, c'est absolument le contraire de ce que pense Trump, quoi. Et que je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur ça.
Et que faut-il attendre de ce sommet des trois amigos?
Ce sont trois personnes qui s'entendent bien, qui sympathisent. Mais comme on le sait, Obama est en fin de mandat. Et maintenant, c'est clair qu'ils vont tout faire pour montrer combien c'est important et pour probablement essayer d'influencer l'élection aux États-Unis, quoi. C'est tous les moyens qu'ils peuvent faire, puisque d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que le président Obama s'est ouvertement affiché avec Hillary Clinton.
Chika Kanyuri à Ottawa. Le président Obama doit s'exprimer devant les députés à la fin de la journée. La visite sera clôturée par une conférence de presse conjointe des deux chefs d'État et du chef du gouvernement canadien.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph en a assuré la mise en onde, assisté de Sidrac Franklin à la console. Présentation, Morgane Guériec et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes plus d'1 250 000. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.